France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, bienvenue à Eve Brenner, la seule artiste aussi remarquée dans le monde de la musique contemporaine que dans celui de la variété qui lui a valu un disque d'or. Antoine Goléa disait qu'elle avait la voix la plus haute du monde, mais Eve Brenner est une artiste complète, venue ce matin avec quelques raretés, une mélodie de Reinaldo Hahn, un opéra de Salvatore Dali ou encore un classique disco à découvrir dans quelques minutes. En attendant, puisque septembre est le mois des fêtes foraines, j'invite les enfants à entendre avec moi quelques attractions.
Entrez, entrez, c'est ici la galerie des phénomènes. Enfants seulement, entrez, entrez.
C'est la galerie des phénomènes, tiens-moi la main mon petit Jean. 3 francs seulement c'est une aubaine, nous en aurons pour notre argent. Oh, qu'est-ce que c'est que ça papa? Ça c'est le célèbre Boustou, qui mange du fer du caoutchouc. Hier il a fait la dinette, avec les pneus de sa bicyclette. Il mange aussi des gros cailloux, des pavés en bois et des clous. Ne laisse pas traîner un marteau, il l'avalerait comme un gâteau. Il n'est pas inscrit chez le crémier, il a son tour chez le quincailler. C'est la galerie des phénomènes, tiens-moi la main mon petit Jean. 3 francs seulement c'est une aubaine, nous en aurons pour notre argent. Oh, qu'est-ce que ça, papa? Ça, c'est le derviche tourneur, il tourne sur lui-même une heure, et puis sur des rasoirs, il danse, et se transperce avec une lance. Ensuite, il se met dans un cercueil, on s'apprête à porter son deuil, mais il sort frais comme une alouette, et tourne encore comme une girouette. Maintenant, il faut dire ce qu'il faut, il était tourneur chez Renault. C'est la galerie des phénomènes, tiens-moi la main, mon petit Jean. 3 francs seulement, c'est une aubaine, nous allons pour notre argent. Oudi, qu'est-ce que ça, papa? Ça, c'est le coin des animaux. Le poney qui a une tête de veau. Le taureau qui est né qu'une chatte. Le fameux mouton à 5 pattes. Regarde comme il est dodu. Il lui faut des soins assidus. On le surveille matin, n'est-ce pas? À cause des gars du marché noir. Sur lui, s'il mettait l'embargo, 5 pattes, ça leur ferait 5 gigots. C'est la galerie des phénomènes. Tiens-moi la main, mon petit Jean. 3 francs seulement, c'est une aubaine. Nous en avons pour notre argent. C'est joli, hein? Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, ça ne va pas, tu ne dis plus rien, Jeannot, voyons. Oh, non. Papa, ça ne m'amuse pas du tout. Des phénomènes, il y en a chez nous. Maman qui n'a plus de savonnette, à la pierre qu'on se lave tes chaussettes. Ma tante a une barbe de sapeur, mon oncle fume des feuilles de chou-fleur. Et toi, avant hier qui criais, je ramène 3 carottes sans ticket. Quand ta grand-père qui était fou, maintenant il est devenu zazou. C'est notre galerie des phénomènes. Papa, rentrons à la maison. À notre époque, c'est un coup de veine. Y'a que les gosses qui gardent leur raison.
L'excellent Georgius dans cette chanson de 1943, enregistrée avec le non moins excellent orchestre de Pierre Chagnon. Georgius qui évoque toujours un petit peu à demi-mot dans ses chansons de la guerre, évidemment, la question du marché noir. Qu'est-ce que ça, papa? Je vous la recommande beaucoup. Elle n'est pas facile à trouver, mais les amateurs de Georgius la connaissent.
Thank you.
et d'une rareté à l'autre. Je pense que vous aurez apprécié les délicieuses couleurs de cette petite pièce intitulée Promenade à Trois. C'est une composition de Roger Bourdin. Il y a un Roger Bourdin chanteur et puis il y a un Roger Bourdin flûtiste, un très grand flûtiste. C'est lui qui joue dans la fameuse chanson de Dutron, Paris s'éveille, mais c'était un grand flûtiste classique et c'était un passionné de musique légère, un compositeur. Ici, c'est donc Promenade à Trois, interprété par l'Orchestre de musique légère de l'ORTF sous la direction de Paul Bonneau, un extrait de notre merveilleuse discothèque avec toute cette série intitulée Musicolor, 8 vinyles qui vraiment comporte tous les chefs-d'œuvre de la musique légère de l'époque de la fin des années 50 et du début des années 60.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et d'ailleurs, l'histoire de la maison de la radio sera d'une certaine façon au programme ce matin avec mon invité qui est beaucoup venu à ses débuts. J'avais eu la joie de la recevoir voici quelques années, fascinée par son surnom de plus grande voix du monde. Et de fait, elle a beaucoup, beaucoup d'octaves, mais elle a aussi beaucoup d'autres cordes à son arc, comme nous allons le voir dans un instant avec Eve Brenner. Et quand ça module à la fin, ça monte encore plus haut jusqu'au contrefa. Mais Eve Brenner, vous me dites que ça n'est rien, un contrefa.
Non, ça n'est rien. Je suis allée jusqu'au contre si bémol en concert.
Ah ouais.
Oui, demandé par les compositeurs. Non, ils n'hésitaient pas. C'était à la cantine qu'on me demandait de...
Ah, ici, à la maison.
Est-ce que tu peux faire ça
radio,
aussi? Oui.
Pour les concerts de musique contemporaine, on va y revenir. Mais c'est un effort d'aller chercher la note toujours plus haut ou ça vient tout seul?
Non, tout seul.
Non plus, ni l'un ni l'autre.
Un petit peu de musculature, de travail, de concentration. Non, mais en fait, oui, c'est dans ma voix.
C'est dans votre voix.
J'ai pas de mérite. Non, j'ai aucun mérite.
C'est clair. En tout cas, ce morceau, il s'appelle Le matin sur la rivière. Et ça a été un grand, grand succès.
Ça a été un tube en 15 jours dans le monde entier, tous les standards bloqués. je n'en revenais pas, mais je suis très contente.
C'était en 1976.
Hein. 76, mais ça faisait déjà 10 ans que je hantais la maison de la radio avec de la musique contemporaine.
Certes, certes, mais alors là, c'était le tournant un petit peu vers des œuvres plus qu'on pourrait qualifier de variété. Il faut préciser que ce matin sur la rivière, il s'est composé par un jeune compositeur disparu tôt
qui
s'appelait Charles Calais.
Oui, oui. Il avait 20 ans, oui, oui.
Voilà. Et puis les arrangements sont signés quand même Jean-Claude Petit.
Jean-Claude Petit qui aimait bien travailler avec moi parce que, bon, on était sortis tous les deux du conservatoire, donc il avait l'impression d'être dans son monde aussi. Donc on s'entend très bien.
Vous entendez toujours très bien. Il faut dire, en plus, alors ça, c'est le hasard. Ça s'appelle Le Matin sur la rivière. Et vous, d'ailleurs, vous êtes né au bord d'une petite rivière du Berry.
Je suis né avec. Mes parents étaient réfugiés. Et ouais. Je suis né à côté d'une rivière. Et lorsque Franck Thomas a décidé d'appeler ça Le Matin sur la rivière, il ne le savait pas.
Voilà, parce que Franck Thomas, c'est un parolier très très célèbre.
Et c'est lui qui a
l'idée. Sauf qu'il n'y a pas de parole dans la chanson.
Si, il en a écrit quand même.
Ah, il y en avait, mais vous ne les avez pas gardés.
Pas facile dans cette tessiture-là.
Non, évidemment. Donc, il a co-signé le morceau, en fait.
Oui.
Voilà. Et c'est lui qui avait eu l'idée de ce matin sur la rivière.
Il ne savait absolument pas que j'étais née à côté d'une rivière. Même moi, je n'y pensais pas du tout. Bon, je lui dis, tu as un drôle de titre, mais bon, oui, c'est joli. Allons-y.
Alors, vous disiez, c'est pas un effort extraordinaire parce que vous les avez dans la voix, c'est notre très aiguë, mais est-ce que c'est une jubilation particulière d'aller frôler comme ça les cimes de la musique, physiquement et mentalement?
Oui, c'est ma tessiture en réalité. Quand je chantais dans les toilettes, c'était toujours, toujours très aigu.
Très, très aigu.
Oui, j'aimais bien. Non, ça sortait comme ça, naturellement, et c'est ce qui faisait dire à ma mère que je chantais comme un oiseau à l'époque. Elle m'avait dit ça, tiens. Bah, elle avait peut-être pas tort.
Alors justement, votre mère, c'est bien que vous en parliez parce que vous avez une histoire d'enfance à la fois belle, étrange et tragique par certains aspects. On va y revenir dans un instant. Mais il faut dire que vous êtes, Eve Brenner, née de parents musiciens. Hein. Votre père était un juif allemand qui a épousé votre mère, qui est une française catholique.
Violoniste.
Ils faisaient beaucoup de musique ensemble. Ils ont même fait des disques ensemble. Et alors c'est Mathieu Moulin, le responsable de Marianne Mélodie, qui a retrouvé il y a quelques années un disque de votre mère qui s'appelait Dogana, hein, c'est ça?
Dogana.
C'est son nom d'artiste.
Le nom d'artiste qu'elle avait choisi. En fait, elle s'appelait Gado de son nom de jeune fille, donc elle avait appelé ça Dogana, sans penser à l'époque que ça voulait dire douane d'ailleurs.
Ah oui.
Étrange destin d'ailleurs quand on sait que mon malheureux père s'est retrouvé apatride.
Et alors donc Dogana avec votre père qui accompagne, je crois, qui est dans l'orchestre, qui est avec elle.
Mon père qui était un grand musicien, un compositeur de musique de film, avait créé un orchestre. Il jouait lui de la flûte, de la clarinette, du bandoneon, un tas de trucs. Et ils ont créé un orchestre qui s'appelait les Tyroliennes de Lutz.
Voilà, avec ce répertoire très en vogue avant la guerre de Tyroliennes. Et ben voilà, on écoute vos parents, Eve Brenner, en 1939.
Le genre de la ferme voisine, il m'a dit en secret ce soir, il m'a dit d'une voix câline, il ne vivait que pour me voir. Yo lo lo lo, je lui ai dit que pour me plaire, il lui fallait vraiment Ouida, la Ouida, me donner sans autre manière un anneau pour mon petit doigt. Yo la la la, Ouida, 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 la la la, Ouida, Ouida, Ouida. Et je riais à gorge pleine, croyant qu'il se moquait de moi, la Ouida, Ouida. Mais comme vague, c'est la sienne qui l'a mise à mon petit doigt. Yo
et le lion, le la rue latine. Et c'est pourquoi la vie m'enchante et que j'écoute dans mon corps la rue, la rue. Un petit pincenet qui chante la mélodie de mon bonheur.
Jeanne Brenner, alias donc Dogana, avec l'orchestre des Tyroliennes de Luz. Votre mère, Eve Brenner, un peu avant la guerre, avec l'orchestre de votre père. Il s'était rencontré à Paris, donc lui étant venu d'Allemagne.
Il était venu d'Allemagne et d'ailleurs son père voulait pas qu'il reste à Paris et qu'il soit musicien, donc il lui avait menacé de couper les vivres. Et ils se sont rencontrés, elle était secrétaire de direction dans une boîte d'édition musicale.
Oui.
Ils se sont rencontrés, elle avait appris à jouer du violon et du piano comme toute jeune fille bien élevée. Et donc ils ont, ça s'est passé. C'est une grande merveilleuse histoire d'amour.
D'amour, malheureusement donc qui 1900, a été bref, ouais. Parce que vous êtes né en 1940 et trois ans plus tard votre père est déporté en Allemagne où il ne reviendra pas.
Il ne reviendra jamais. J'ai espéré toute ma vie qu'il reviendrait, mais non. J'ai rêvé, hein, j'ai toujours rêvé qu'il reviendrait.
Voilà.
Mais non.
Et votre mère, donc, alors vous me disiez qu'elle avait appris la musique spontanément, enfin, elle n'avait pas vraiment un métier de musicienne, mais elle avait la voix, vous avez des gènes dans la famille.
Non, elle avait son grand prix de violon, de la Scola Cantorum.
Comme chanteuse, vous voulez
dire. Ah, comme chanteuse, jamais, jamais. D'ailleurs, si je lui donnais des cours, là, je dirais, oh là là, non, non, pas là, pas tout à fait comme ça. Et d'ailleurs, ça ne marcherait pas, elle serait furieuse.
Voilà, et donc c'est elle qui vous initie d'une certaine façon à la musique.
Complètement, elle voulait. Enfin, moi, j'étais tentée par la musique, mais c'était hors de question que je ne fasse pas de la musique. Donc j'ai eu droit à mes 4 heures de piano par jour. J'ai beaucoup travaillé. Et voilà. J'ai travaillé avec elle. On a fondé un orchestre, d'ailleurs. J'avais 14 ans. On a monté un orchestre de brasserie où on jouait que de la musique classique, pratiquement, un petit peu de musique plus légère. Et donc
oui.
j'ai
Et vous jouiez où alors? Dans quel genre d'endroit?
Dans les grandes brasseries très chic qu'il y avait autrefois des orchestres féminins. Elle avait ses 6-7 musiciens.
Mais vous aviez en même temps, à ce moment-là, une autre passion qui était la danse, en fait. Hein.
Ah, ça, c'était, oui, ma grande passion. Donc, parallèlement, j'allais au conservatoire de Lille, puisque nous étions à Lille avec l'orchestre à cette époque-là, un endroit qui s'appelait le Café Jean à cette époque,
oui.
Qui est devenu, je crois, le drugstore. Et j'allais à l'Opéra de Lille tous les matins pour apprendre mon métier de danseuse, que j'ai pratiqué et qui m'a amenée à devenir chanteuse.
Voilà, alors vous êtes chanteuse, pianiste, danseuse, et du coup, forcément, quand on fait tout, on fait aussi un petit peu d'opérette, parce que c'est un métier complet.
Ah, alors, bien sûr, j'avais une petite voix. Dans les théâtres, on m'a dit, tu pourrais pas. Alors, j'ai chanté Fifi, j'ai chanté Aspasie.
À Boulogne-sur-Mer, par exemple.
À Boulogne-sur-Mer, deux saisons de suite.
Deux saisons de suite.
Oui. Et après, je suis venue. Un ami qui était professeur de conservatoire m'a dit, mais écoute, c'est bête, viens au conservatoire. Mais tu viendras juste passer tes prix. Bon. Alors, je suis rentrée avec l'ACMÉ, je suis sortie 2 ans après avec mon prix.
Et c'est là que vous avez vraiment décidé donc, de vous tourner plus vers le chant que vers la danse ou vers le piano ou vers
Non, j'ai eu une tendinite tellement grave que la danse, il fallait oublier, c'était pas possible. Donc, ensuite, une fois que j'ai eu ce prix, je suis rentrée au Conservatoire de Paris. Et comme j'étais musicienne, les jeunes compositeurs ont fondu sur ma voix.
Voilà, mais alors on va d'abord, pour évoquer peut-être cet apprentissage du chant, Eve Brenner, vous écoutez là, dans un répertoire tout à fait classique, une mélodie française, une belle mélodie que j'aime, de Reynaldo Hahn, d'une prison.
J'aime énormément la mélodie française.
Oui.
J'aime énormément les mélodies et j'aime énormément la musique française.
Et vous dites le texte autant que vous le chantez, c'est ça qui est beau dans cette version.
Et c'est ce que j'aime justement, ne pas chanter en chanteuse lyrique ces mélodies françaises qui sont absolument merveilleuses et souvent poignantes alors qu'on les a trouver un peu cucu, nunuche, mais non, c'est
sublime. C'est quand même un poème de Verlaine, il faut
c'est
dire.
C'est voilà, il faut le dire, oui.
Reynaldo Hahn, chanté par Eve Brenner, qui est mon invité ce matin. Et Eve Brenner, on va en venir tout de suite à la musique contemporaine qui a joué un rôle si important dans votre vie. Mais vous avez eu parmi vos professeurs un homme qui était plutôt, je dirais, un homme de la tradition du chant français, de la comédie, de l'opéra comique et de l'opérette, qui était monsieur Jean Giraudeau.
Jean Giraudeau, oui, Jean Giraudeau aimait bien m'avoir dans sa classe parce que j'étais le phénomène de service pour les séances du matin.
Ah bon? Comme pourquoi?
Parce qu'il y a, il est autorisé aux gens qui viennent de l'étranger, beaucoup les Japonais ou les Chinois, il leur est autorisé de venir écouter les cours.
Oui.
Et donc, oh ma petite Ève, vous allez bien nous faire un petit contre-mis.
Ah voilà, c'était le contre quelque chose toujours. Voilà. L'emploi de service qui aurait pu vous guider à une carrière de colorateur d'opéra comique, justement, un petit peu dans le sillage d'une Mado Robin ou d'une Maddie Mesplet. Finalement, ça n'a pas été le cas.
Ça n'a pas été. Oui, bah si quand même, parce que l'ACMÉ a joué un grand rôle dans ma vie et joue toujours un grand rôle de ma vie. C'était d'ailleurs mon rôle bien aimé. Ça me passionnait ce rôle-là. Je le trouvais si beau.
Mais sauf qu'il y a quelqu'un qui vous avait remarqué, enfin quelques-uns, et notamment un des grands maîtres du conservatoire de l'époque et un de nos plus grands compositeurs, c'était Olivier Messiaen.
Oui, ah ben oui, mais il aimait beaucoup. Dans ses élèves, il y avait notamment Didier Denis qui m'a écrit les plus belles choses qu'on m'ait jamais écrites. Oui. Parce que Didier a le sens de la mélodie, ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'il s'agit de compositeurs de musique contemporaine. Donc il m'a écrit des très très belles choses et le sens aussi du théâtre, des mots, des choses poignantes. Donc Olivier, on s'est très bien entendu et il aimait beaucoup ma robe parce que j'avais,
ah bon,
j'avais une rosace orange. Ah oui. Derrière le dos. Et Olivier était très très sensible aux couleurs.
Ah ben c'est vrai, oui, il a beaucoup écrit sur le sujet et parlé sur le sujet. Mais alors donc finalement, ce petit monde de la musique contemporaine vous a un petit peu happé parce que vous aviez des possibilités vocales qui leur permettaient d'utiliser votre voix comme un instrument extraordinaire.
Ah ouais, puis moi j'ai aimé ça tout de même. D'abord, c'est pas désobligeant de chanter des choses que personne n'a chanté avant et qu'on a écrites pour vous. Voilà. C'est pas désobligeant de chercher ensemble l'interprétation. Parce que comme a dit quelqu'un dernièrement, un de mes amis Jean-Claude Pentier, derrière les petits points, il y a la musique.
Oui.
Derrière les petits points noirs, il y a la musique. Et effectivement, le compositeur avait une idée, et moi, en commençant à chanter, je trouvais d'autres choses. Par exemple, dans cette mélodie de Reynaldo Hahn, il y a une espèce d'immobilisme qu'on arrive à rendre dans le chant. Eh bien, dans ces musiques contemporaines, j'arrivais à trouver des couleurs, des choses qui faisaient dire au compositeur « Ah ben oui, même Maurice Ohana me disait « Ah ouais, toi, t'as une voix plus sauvage ».
Voilà, Maurice Ohana, dont vous avez chanté d'ailleurs la musique, effectivement.
Le Syllabaire pour Phèdre.
Exactement,
en Avignon.
Pour Phèdre.
Oh, quel beau souvenir. Voilà. Magnifique mise en scène.
Alors, une autre aventure dans ce registre de la musique contemporaine, assez étonnante, et là on va en écouter un extrait, c'est cet opéra de Salvatore Dali sur une musique d'Igor Vakevitch, le fils du grand décorateur de cinéma, mais qui était lui-même un compositeur, qui est toujours un compositeur. C'était en 1985, je crois. Et vous avez donc chanté cette œuvre. Comment ça s'est arrivé?
Ben, je ne sais pas, je me suis retrouvée être Anne de Bretagne. Il n'y avait que moi comme chanteuse dans cet opéra qui devait être.
Donc
très...
Dali avait écrit, ça s'appelait Être Dieu.
Être Dieu.
Par le divin Dali.
Être Dieu, voilà. Qui devait être créé donc au festival de Shiraz-Persépolis, qui était jumelé avec le festival de Royan à l'époque.
Oui.
Et puis, avec les événements, adieu le festival de Shiraz-Persépolis, il n'est resté que le disque et on n'a jamais
pu. L'œuvre n'a jamais été jouée.
On n'a pas pu la jouer, voilà.
Mais vous vous rappelez l'enregistrement donc avec Dali?
Effrayant, absolument.
Pourquoi effrayant?
Parce que les auteurs avaient écrit des textes absolument merveilleux dont on dispose, mais lui, il a toujours dit autre chose.
Ah, il disait autre chose que ce qui était écrit, d'accord.
Voilà, c'était pas facile de s'y retrouver.
Alors, on va justement retrouver la voix de Dali au tout début de cet opéra, enchaîné avec un extrait que vous chantez vous-même, Eve Brenner, Être Dieu, donc la musique d'Igor Vakevitch et l'opéra, poème, audiovisuel et cata en 6 parties de Salvatore Dali.
La mort et la guerre, la chauve de la terre. Être Dieu, être Dieu, qui n'est pas une blasphème, mais au contraire, cette possibilité de que vraiment Dieu forme part de notre moindre substance, pas seulement animique, mais même matérielle. Thank you very much.
Thank you very much, Madame Brenner, pour cet opéra donc de Dali, Être Dieu, musique d'Igor Vakevitch. C'est une des premières fois que j'entends un Hatchoum chanter, c'est pas facile. Hein.
J'ai réédité ça à l'Opéra de Paris très très souvent avec Caroline Carlson, puisque d'ailleurs c'est Igor Vikevitch qui avait proposé à Caroline de travailler avec moi.
Alors
aussi.
C'était quoi vos spectacles avec Caroline Carlson, Eve Brenner?
Trois ballets. Il y a eu Wind Water Sound, il y a eu L'Or des Fous, Les Fous d'Or. On est parti en tournée et donc j'éternuais sur scène comme ça. Et avec le Yves Speaks d'ailleurs, je crois que vous l'avez ça.
Oui.
Et évidemment, toute la salle de l'Opéra Garnier écroulée de rire. J'adore.
Voilà. Donc ce sont vraiment vos années très actives dans ce milieu de la musique contemporaine. On pourrait évoquer encore, par exemple, la figure très, très regrettée, je l'aimais beaucoup, de Marius Constant, avec qui vous avez travaillé à de nombreuses reprises.
On a même fait un opéra entièrement improvisé aux Salines d'Arquesnon, avec des costumes du papa d'Igor Vakevitch. J'étais costumée par le papa.
Le grand Georges Vakevitch.
D'Igor, voilà. Donc j'arrivais, je crois que j'étais nue, donc j'avais des collants couleur chair. On m'arrachait ma peau, je me retrouvais en muscles. Et ça s'appelait la serrure de Jean Tardieu. Et donc quelqu'un qui regardait par le trou de la serrure, on m'enlevait ma troisième couche, on m'enlevait donc mon squelette. Non, mes muscles, et je me retrouvais en squelette sur scène.
Finalement, on s'amusait
mais
bien.
Mais attends, hein. Ça s'accrochait. Des fois, ça voulait pas sortir.
Ah, voilà.
Donc, fallait se battre pour tirer très très fort sur la peau pour arriver à terminer en squelette.
Ça, c'était le petit monde de la musique contemporaine de l'époque. Il y avait aussi le GRM où vous avez œuvré souvent pour les enregistrements.
Énormément de créations au GRM pour les jeunes compositeurs. Je pense que ça a été la grande époque. Oui, voilà. Effectivement.
Voilà, donc vous sembliez parti pour une carrière, je ne veux pas dire académique, mais au contraire plutôt avant-gardiste. Et puis le hasard a décidé d'autres tournants. Mais entre-temps, justement, je voudrais évoquer une artiste singulière, atypique, que je pense vous écoutiez aussi depuis votre enfance, peut-être parce que il y avait une certaine ressemblance pour les facilités dans l'aigu qui vous fascinaient.
J'étais petite fille.
Ima Sumac.
Oui, je l'imitais.
Vous l'avez découverte quoi, dans des disques à la maison.
J'étais petite fille, non, c'est ma mère qui avait entendu Ima Sumac et qui aimait beaucoup ça. En fait, il n'y a pas de hasard.
Non. vous l'avez jamais rencontrée, j'imagine.
Non, jamais. Non. Jamais. On m'a dit que c'était truqué, mais comme moi-même, Leonard Bernstein a dit un jour à Vic Vance, le journaliste de Paris Match, c'est pas possible, c'est truqué. Non, c'était pas truqué. Et Ima, c'était probablement pas truqué non plus.
Mais alors, qu'est-ce qui monte le plus haut? C'est Mado Robin, c'est Ima Sumac ou c'est vous?
Qui soit allé le plus haut en enregistrement et en concert, c'est moi. Mais je pense que
Mado... Dans une œuvre contemporaine?
En musique contemporaine, oui. Et je pense que Mado avait à peu près la même voix, mais elle n'avait pas mon grave, car je suis une sorte de castrat. Vous entendez ma voix parler, qui quand même est imposante. J'ai pas une voix du tout de soprano lyrique.
Oui.
Donc effectivement, je pense que ces contre-aigus sont... Un peu comme pour les sopranistes, pour les barytons qui chantent soprano.
D'ailleurs, répertoire que vous avez illustré, on va y revenir. Mais alors, on écoute donc La Molina, chantée par Ima Sumac.
Thank you.
paraît qu'elle était la descendante du 13e et dernier empereur inca, Atahualpa. En tout cas, c'est ce qu'elle disait. Imasumak, et c'est une artiste assez étonnante, née
faut
en 1922.
Faut toujours croire ce que les artistes
2008.
Disent.
Voilà. Les légendes, oui. Et en tout cas, Imasumak, voilà, c'était une joie de l'entendre avec vous ce matin, Eve Brenner. Alors, voilà, justement, on a parlé de ces années très tournées vers le monde de la musique contemporaine. Et puis, tout d'un coup, en 1976, on l'a entendu au début, vous devenez une vedette de variété avec Le Matin sur la Rivière, Disque d'or. Mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé de l'un à l'autre? Comment s'est produit cette rencontre, ce tournant dans votre vie de chanteuse?
C'est comme toute ma vie. Moi, j'attrape tous les fils. Donc, j'étais en train de jouer le concerto de Schumann, absolument extraordinairement, sur un grand piano merveilleux, dans la coulisse du théâtre Gérard Philippe, où on préparait la création d'un opéra d'Ioana Brusdowicz.
Vous pouvez quand même jouer le concerto de Schumann, vous avez un bon niveau de piano.
Ah, ben quand même. Hein.
Oui, quand même.
Mais je suis une travailleuse, chanteuse aventureuse et travailleuse.
Alors, vous jouiez quoi au théâtre Gérard Philippe?
Les Troyennes de Ioana Brusdowicz.
Une œuvre contemporaine, donc.
Une œuvre contemporaine, un opéra contemporain.
Un opéra contemporain.
Et une Macha Béranger, qui était aussi là, me dit, dis donc, toi, tu dis jamais bonjour. Ah, peut-être que c'est un tort que j'ai, effectivement. Et elle me dit, écoute, je vais faire un disque, je voudrais que tu viennes avec moi voir mon producteur.
Et Macha Béranger, que les auditeurs de
qui était l'épouse
Radio France connaissent bien, évidemment.
Ouais, qui était l'épouse
d'une certaine génération.
Jacques Preslin, à l'époque, qui n'était pas encore Allo Macha. Et donc, elle m'a emmené voir ce producteur qui m'a fait entendre cette musique du Matin sur la Rivière.
Ah voilà, c'est lui qui avait repéré le jeune Calais.
Voilà, il l'avait en édition et il m'a dit, écoute ça, qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit, c'est bon moi. Il me dit, on essaie. J'ai dit, bah oui, on essaie. Et puis 15 jours après, ben voilà, Tube Mondial, qui m'a ouvert tout un univers, fermé pas mal de portes parce qu'on a pensé que j'étais devenue millionnaire.
Ah voilà,
erreur.
Vous n'avez plus besoin de travailler.
Non, c'est pas vrai.
Mais vos amis de la contemporaine, comme on dit, ils ont dû trouver ça un peu bizarre.
Je me suis même fait dire, quand j'ai chanté Ariane en Naxos, tout de même, un rôle de soubrette pour toi, non.
Ah oui, voilà. Ça, c'était avec Emmanuel Rosenthal.
Ah oui, avec Emmanuel Rosenthal et le Philharmonique.
Voilà. Mais en tout cas, bon, vous avez commencé donc à enregistrer des morceaux, voilà, oui, de musique plus, on peut dire, de variété, mais qui mettaient en valeur votre voix. Et évidemment, ça vous éloignait un petit peu du monde du GRM. C'était pas possible de faire les deux.
Oh, si.
Oui, vous avez continué un peu.
Si, c'est eux qui ont cru que je voulais plus.
Ah oui, c'est ça, oui. Ils ont cru que vous...
Ils ont cru que je ne voulais plus. Marius Constant m'a dit, tu sais, maintenant, ils croient que tu veux plus parce que maintenant, t'es célèbre et t'es riche. Ah bon?
Voilà, exactement. Et alors donc là, voilà, c'est votre producteur qui vous a proposé toute une série de morceaux. La rencontre, par exemple, avec Franck Thomas, justement, ou avec Jean-Claude Petit, comment est-ce que ça s'est produit?
Ah ben non, Franck Thomas, c'était celui qui produisait donc Le Matin sur la Rivière.
Oui.
Il a choisi Jean-Claude Petit. Et après, quand on fait un succès énorme comme ça avec un seul titre, puisque de Face B, c'était un instrumental, l'histoire de ne pas se tromper, et il a fallu faire immédiatement et très 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 vite un album.
Voilà.
Voilà. Donc là, ben, j'ai rencontré plein de gens pour faire un album, puis un autre, et puis ça s'est enchaîné comme ça.
Voilà, pendant plusieurs années, hein, jusqu'au début des années 80, là, vous avez vraiment été...
Ça a duré une petite dizaine d'années, quand même, ce succès. Oui, oui.
Voilà. Et alors donc, on va peut-être écouter justement un autre morceau de votre répertoire de cette époque. Ça s'intitule « Terre natale ». Vous pouvez nous en dire un...
C'est également Charles Calais. Alors, « Terre natale », moi, je voulais le chanter avec le texte. Je trouvais très émouvant. Et Franck ne voulait pas. Mais j'ai quand même réussi à l'enregistrer avec le texte. Parce que vous savez, quand je chante sans parole, on me dit « Mais quand est-ce que tu vas chanter vraiment ?» C'est intéressant, non?
Voilà, c'est ça, c'est curieux comme remarque.
C'est curieux.
Oui.
Parce qu'on la voit même instrumentale. On ne va pas demander au violon ou à la flûte de prononcer des paroles.
Non, mais là, en tout cas, donc, dans Terre natale, il y a deux versions en fait, qui
versions.
Existent.
Hein. Voilà. Et moi, j'aime la version avec les paroles.
Avec les paroles, voilà. Ça commence d'ailleurs plutôt dans le grave, puis ça va très,
oui.
Très haut dans les
durs
ensuite.
Et ça aussi, c'est un peu mon vice. J'aime beaucoup faire ces effets-là. Non, c'est une joie, c'est une grande joie.
Thank you. décidé.
C'était Eve Brenner. Alors, avec, on peut dire, votre équipe, hein, Charles Calais qui avait composé cette musique, et puis Franck Thomas, un des plus grands paroliers de la chanson française, avec qui visiblement vous vous entendiez bien.
Et suffisamment bien pour qu'il écrive un texte, et avec, on s'est amusé avec Jean-Claude.
Et Jean-Claude Petit, voilà, voilà, qui est pour ses couleurs.
Un truc, très, musique française très... qui fait partie de l'album, qui est très très beau, avec un très beau texte. C'était un grand, grand auteur, Franck, de chansons.
Oui, il nous a quittés il y a peu de temps, mais il a écrit pour Joe Dassin, pour tout le monde, des tubes qu'on n'a pas oubliés. Et puis Jean-Claude Petit, c'est pas la peine de rappeler quel extraordinaire musicien et notamment arrangeur, on l'entend ici, il est toujours. C'est drôle parce que je reviens un petit peu en arrière, mais tout en revoyant votre discographie, Eve Brenner, je m'aperçois que à l'époque où vous travailliez avec Igor Vakevitch, le compositeur de l'opéra avec Dali, vous avez également chanté un ballet de Vakevitch qui s'appelait Les Fous d'or, et avec au violoncelle un certain notre ami Frédéric Lodéon.
Voilà. Et j'ai évidemment c'est en disque aussi, et c'est magnifique. Frédéric jouait très très bien et on a fait quelque chose de superbe. J'ai beaucoup aimé travailler avec Frédéric.
Voilà. Alors évidemment, ces succès dans le domaine de la variété, ça vous a un peu coupé, on l'a dit, d'un certain monde de la musique contemporaine, mais ça vous a aussi amené à toutes sortes d'expériences, d'aventures. Vous avez fait des génériques, par exemple, pour la radio ou la télévision.
Ah, j'ai fait des génériques, j'ai fait beaucoup de musique.
Avec Pierre Bellemare, notamment, hein, les émissions Au nom de l'amour.
Voilà,
c'était votre voix qui chantait le générique. Et puis, alors, vous avez fait aussi des musiques de cinéma.
J'ai fait des musiques de cinéma, c'est encore Jean-Claude. D'ailleurs, j'ai chanté avec Manon Dessources avec et le mariage de Manon avec Gabriel Baquier.
On entend en duo avec Baquier,
ouais, en duo à l'église. Mais après, je me suis fâchée, j'ai dit j'en ai assez. J'ai monté une compagnie et on a fait énormément de musique baroque que je fais toujours.
Voilà, vous en avez eu un petit peu marre en
pas
fait, au bout d'un moment.
Pas
non, non,
tout,
pas de la musique baroque.
Pas de
je dis, vous dites, je me suis fâchée.
Qu'on me catalogue comme ça,
oui.
Qu'on me dise quand est-ce que tu vas vraiment chanter. Ben, bon, je suis excellente en musique baroque. Voilà.
Voilà, et c'est comme ça que vous avez créé les dîners, les soirées, les dîners musicaux.
Allez, j'ai recréé les dîners musicaux à Paris. Oui, j'ai rencontré là d'ailleurs un jeune homme qui chantait en sopraniste, voix de castrat, comme on dit, mais il n'aime pas qu'on dise ça. Donc en sopraniste, et on a monté tout un programme très intéressant, dont le Pergolèse, d'ailleurs le Stabat Mater. Et la première fois que j'ai chanté avec cette voix-là, on m'a dit oh non, lui il voulait pas, il me dit tu sais, franchement, et puis maintenant tout le monde le fait, bien sûr, parce que c'est magnifique. Ma voix qui s'apparente à la sienne, tout en étant plus féminine, et cette voix magnifique de sopraniste, c'est dans le Pergolèse. Quand on comprend bien la musique baroque, c'est vraiment très beau.
Voilà, alors ça montre en tout cas la diversité de votre répertoire et votre volonté effectivement de pas être enfermé dans cette expression que les Anglais appellent stratospheric voice.
Ouais. Mais faut que j'ajoute quand même que j'ai eu le bonheur de travailler avec Antoine Geoffroy de Chaume, oui, qui était une sommité
aussi. Donc, du monde de la musique baroque, bien
voilà,
sûr. Oui.
Quand je parle de musique ancienne, je suis pas allé comme ça la fleur au fusil.
Voilà, mais n'empêche que comme ici c'est aussi une émission de divertissement, on va retourner un petit peu à des choses plus légères et vous nous avez apporté, oh c'est très bref mais c'est amusant, une musique d'Alan Reeves avec qui vous avez aussi enregistré des chansons. C'est qui Alan Reeves?
Alan Reeves est un compositeur, alors c'est un Anglais qui vit plutôt aux États-Unis, qui a énormément fait de musique de film aux États-Unis et qui a écrit Disco Rhapsody et qui m'a demandé de chanter pour lui. Et nous avons enregistré ça à Londres. Et moi, tout de suite, à pieds joints, je saute dans les nouvelles propositions comme ça. Parce que c'est formidable d'avoir la chance qu'on vous ouvre des nouvelles fenêtres, des nouvelles portes quand vous avez un instrument.
Voilà, alors là, on va écouter...
Il a écrit Kill Bill, la musique de Kill Bill 2.
Oui, c'est quand même pas mal, oui.
C'est pas mal.
Mais là, c'est une fantaisie dans le très aigu, hein.
Ah oui, très très. Oui,
ça monte à quoi?
Ah oui, très très. On doit bien aller au contre-là, là, quand même.
Au contre-là.
Oui.
Un petit bout, donc, de la disco, du classical disco, pardon.
Classical disco, il y tient beaucoup.
D'Alan Reeves. Ah oui, effectivement. Hein.
Contre-là.
Contre-là, chanté donc par Eve Brenner.
Mais il m'en avait écrit une autre où j'ai fait comme ça des contre-là à chaque fois. Jusqu'à Séoul, je suis allée faire les contre-là d'Alan Reeves.
Mais alors, ça veut dire que vous avez toujours continué à travailler techniquement. C'est indispensable. On fait des vocalistes tous les jours.
Il faut prendre soin de son trésor quand même.
Vous travaillez toute seule ou vous allez voir quelqu'un parfois?
À vrai dire, comme ma voix est un petit peu atypique. Et je suis un peu obligée de réfléchir beaucoup.
Par vos propres moyens.
Ce qui fait de moi un très bon professeur pour les autres. Parce que
parce que le temps passant, vous êtes aussi devenu quelqu'un qui a transmis.
J'ai chanté des choses si difficiles. Tout le monde m'a dit, tu es complètement folle, de toute façon tu vas te casser la voix. Ah bon, d'accord. Ben, elle est toujours là, impeccable. Voilà. Tant d'années après, je ne sais pas si je peux dire mon âge, mais de toute façon, c'est écrit partout.
Donc, on a dit que vous étiez née en 40. Alors,
je suis née en 1940.
Enfin, malgré tout, une carrière de chanteuse, si belle soit-elle, ça ne peut pas durer non plus éternellement.
Eh ben si.
Oui.
Ben oui, j'ai enregistré pour ma fille, avec ma fille, des disques, qui a écrit une comédie musicale, ma fille, une comédie musicale, donc. Et j'ai enregistré pour elle, et j'ai encore dû faire, je pense, des contre-là ou quelque chose. Non, c'est toujours là. Ce qui fait que c'est vrai que je connais bien. Les erreurs qu'il ne faut pas commettre et les possibilités pour arranger lorsqu'on s'est un peu abîmé la voix. Donc c'est vrai que je suis un bon prof. Et que d'ailleurs, j'ai une de mes élèves qui fait deux concerts la semaine prochaine au Faubourg Saint-Honoré.
Vous avez même été le professeur de Marion Cotillard, si je peux dire.
J'ai été le prof de Marion Cotillard. Oui. Parce qu'il fallait qu'elle joue un rôle de chanteuse. C'est mon fils qui réalisait ce film, Les Jolies Choses. Il m'a dit, est-ce que tu penses que tu peux aider Marion à chanter? Et j'ai eu 3 mois.
Ouais.
Elle a un peu pleuré, mais elle a tellement bien chanté qu'au lieu d'une chanson, parce qu'on m'avait dit, si elle n'y arrive pas, elle fera du playback. Ouais. Et j'ai dit, mais ça y est, elle va y arriver. Et donc, effectivement, elle a chanté non pas une, mais 3 chansons dans le film. finalement.
Finalement.
Finalement, dont une a cappella. Et elle était émue, elle en pleurait. C'est très beau ce qu'elle a fait. Je suis très fière de moi et d'elle.
Il faut dire, donc, on l'a compris, Eve Brenner, que vous-même, fille de deux musiciens, eh ben, on peut dire que vous avez prolongé la dynastie artistique des Brenner, puisque vos deux enfants sont artistes, l'un cinéaste, ouais, l'autre musicienne.
Ouais. Mon fils est réalisateur et ma fille est extrêmement douée. Elle a une très jolie voix qu'elle n'utilise pas comme moi. Dommage, elle pourrait faire. Et elle écrit des textes. Et ils ont écrit avec son mari une comédie musicale qui va reprendre à Paris, je pense, cet hiver. Donc c'est vrai que je me trouve très
gâtée. Et votre fils a fait quelques films à succès également.
Avec, hein,
avec notamment Jacques Dutronc. Dans...
Il a fait avec Jacques Dutronc, il a fait UV, mais il a fait surtout mince, avec Christine Scott Thomas, ce film qui a eu un succès retentissant. Comment ça s'appelle ?
Et donc le voilà lancé lui aussi voilà, sur la voie artistique de toute la famille. On va écouter Eve Brenner, tiens, pour, juste comme ça, parce que je vous demandais qu'est-ce que vous aimez bien par ailleurs. Alors on aurait pu écouter de la musique classique, on aurait pu écouter Dino Lipati qui vous a beaucoup marqué quand vous étiez petit.
C'est ce qui a décidé, ouais. J'ai dit je quitte le lycée, je veux être pianiste.
Voilà, on aurait pu écouter Schwarzkopf, qui est une de celles qui vous ont donné envie de chanter
pas
également.
Pas envie, ça a décidé, oui, je me suis dit que je voulais chanter. Comme elle.
Voilà. Et puis, bah, finalement, comme cette émission étant ce qu'elle est, j'ai plutôt choisi une chanson de variété que vous chantez à tue-tête, je crois, dans tous les en faisant vos courses, dans tous les magasins.
Non, c'est dans Pierre les toilettes.
C'est Pierre Bachelet.
Oui, elle est d'ailleurs. Bah, parce que tout le monde dit que je dois être une sorte d'extraterrestre. Alors, elle est d'ailleurs. Et puis, j'aime beaucoup cette mélodie et j'adorais chanter à tue-tête le refrain.
Elle a de ses lumières au fond des yeux qui rendent aveugle ou amoureux. Elle a des gestes de parfum qui rendent bête ou rendent chien, mais si lointaine dans son cœur. Pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs. Elle a de ses manières de ne rien dire, parle au bout des souvenirs, cette manière de traverser quand elle s'en va chez le boucher, quand elle arrive à ma hauteur. Pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs. Et moi, je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage. Et je lui dis emmène-moi. Et moi je suis prêt à tous les sillages, vers d'autres lieux, d'autres rivages. Mais elle passe et ne répond pas. Les mots pour elle sont sans valeur. Pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs. Elle a ses longues mains de dentelière à damner l'âme d'un vermeil, cette silhouette vénitienne quand elle se penche à ses persiennes, ce geste je le sais par cœur. Pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs. Et moi je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage. Et je lui dis emmène-moi. Et moi je suis prêt à tous les sillages, vers d'autres lieux, d'autres rivages. Mais elle passe et ne répond pas. L'amour pour elle est sans valeur. Pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs. Et moi je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage. Et je lui dis emmène-moi. Et moi je suis prêt à tous les sillages, vers d'autres lieux, d'autres rivages. Mais elle passe et ne répond pas.
Bachelet en 1980, voilà une des chansons préférées d'Eve Brenner, parmi beaucoup d'autres, parce que vous avez des goûts très, très ouverts, très éclectiques.
Une voix voilée, j'aime bien.
Vous aimez bien les voix voilées?
Oui.
Ah oui?
Mais j'aime bien les voix graves aussi.
Voilà. Les voix d'hommes qui descendent graves, ça vous fascine autant que les voix de femmes qui montent très haut.
Mon mari a une voix grave et il chante cette chanson merveilleusement. Mais il ne veut pas apprendre ses notes. Alors.
Ah bon, d'accord. En tout cas, il est là dans le studio où nous recevons aussi beaucoup. Ah, je devrais vous flatter, Brenner, des messages d'auditeurs. Elle est adorable, une grande personnalité, une grande simplicité, un vrai plaisir. Oh là là, ça tombe.
J'ai reçu sur Facebook des messages, je vous assure. Je devrais les garder, les afficher au mur pour les gens qui arrivent dans ma maison parce que c'est vraiment merveilleux les choses qu'on me dit.
Voilà, une auditrice qui regrette aussi que vous ne nous ayez pas davantage parlé d'Antoine Geoffroy de Chaume. Vous avez dit en tout cas que c'était une très grande figure.
Grande figure, j'ai beaucoup travaillé avec
vous. Vous aviez un morceau en particulier.
La sonate de Clérambeau.
Voilà, la sonate de Clérambeau.
Voilà, et il m'avait apporté les partitions originales, donc il m'a appris à lire la musique sur les partitions originales. Mais j'avais aussi...
Le satyre cornu aussi.
Ah non, le satyre cornu, c'est pas lui.
Non, ce n'est pas lui, non.
Non, mais le Clérambeau, j'avais aussi la partition transcrite, comme on dit en musique moderne, et qui, lorsqu'on a appris à lire la musique ancienne sur les partitions originales, est illisible. C'est impossible de traduire la musique ancienne sur des partitions modernes. Il faut les partitions de l'époque.
Voilà. Alors, en tout cas, on voit la diversité de votre talent, Eve Brenner. Oui. Et aujourd'hui, il faut dire que pour le plus grand plaisir de certains dont je fais partie, vous chantez sur la plage d'Étretat, au milieu des galets, où vous lancez de grandes vocalises. Non, je plaisante.
Non,
vous
n'y chantez pas. Mais... Si. Oh, mais je peux. D'ailleurs, on me le demande.
Non, mais vous partagez votre vie aujourd'hui entre Paris et la Normandie. C'est votre.
Oui. Voilà. Oui. D'abord, j'aime énormément la nature. Oui. Et alors, moi, qui suis pas du tout marine, je suis plutôt une dryade, eh bien, je suis tombée en amour devant Étretat et je suis coincée là-bas. J'adore. Étretat m'a envoûtée. Est-ce que ce sont les falaises? Est-ce que c'est vous?
Oui, et puis il faut dire qu'il n'y a pas très loin d'Étretat aussi la possibilité de partir faire des grandes balades à cheval. Et c'est une des autres passions de votre vie, Eve Brenner. Disons-en un mot, parce que dans le disque qui vous a été consacré par Marianne Mélodie, on vous voit d'ailleurs avec vos chevaux. C'est presque aussi important que la musique.
Oui, j'ai fait énormément de compétitions. Avec mon premier opéra enregistré en Suisse, j'ai acheté mon premier cheval, qui était à Maria Félix, un cheval sorti des courses, et je n'ai plus jamais cessé. Donc j'avais une vingtaine d'années, et j'ai eu la chance, le cadre noir, le machin, j'ai eu les meilleurs maîtres, que ce soit Dorgex, que ce soit Balanda, que ce soit... Tous les plus grands, j'ai eu de la chance, j'ai été bien formée.
Donc maintenant, vous courez sur les falaises normandes, vous galopez sur les falaises normandes. Notamment. Et puis voilà, je rappelle aussi, on a évoqué rapidement votre fils, Gilles Paquet-Brenner, le film que vous évoquiez tout à l'heure, c'était « Elle s'appelait Sarah ».
Elle s'appelait Sarah, pardon mon gars. Voilà. J'avais un trou.
Oui, surtout s'il nous écoute
en
quand même.
En ce moment, il y a un film qui passe sur Canal avec Glenn Close, un Agatha Christie, « Broken House ».
Voilà.
Je ne sais pas si je prononce bien.
Une famille très musicale en tout cas. Et puis alors vous avez pas un autre fils, mais c'est presque pas un fils adoptif, mais quelqu'un que vous aimez beaucoup et qui vous aime beaucoup, c'est Mathieu Moulin. Et je voudrais qu'on en redise un mot avant de se quitter, parce que Mathieu Moulin fait beaucoup, on le sait, pour la musique avec le label Marianne Mélodie, où il a réédité tant et tant de merveilles, où il a fait découvrir tant d'artistes extraordinaires. Et il vous a consacré il y a quelques années ce disque de 3 CD, La plus grande voix du monde, Eve Brenner. C'est comme ça aussi que je vous avais un petit peu découvert, et Mathieu est un fidèle entre les fidèles.
Mathieu est fidèle. Mathieu aime les voix. Il aime réellement les voix. Il aime Mado Robin.
Alors, il y a une passion pour Mado Robin.
Il a une passion pour Mado Robin, mais presque il m'aimerait un peu plus, mais non, quand même. Ça reste Mado. Et il crée donc un centre culturel Mado Robin, dont je vais être la marraine.
La marraine.
Le 17 octobre.
Le 17 octobre prochain, ça se passera où?
Paris 17e.
Paris 17e, et vous y serez donc, il y aura une cérémonie pour l'ouverture. Il nous en avait parlé ici même, dans le 17e, effectivement, de ce centre culturel.
Mais Mathieu, il est exceptionnel. Je crois que c'est le seul à travailler comme ça, à faire ces merveilles, à faire renaître.
À trouver des choses introuvables, comme les disques de votre mère, qui étaient.
Normalement, ils étaient
passés
au pilon. On n'aurait jamais dû retrouver ça.
Voilà.
Et on retrouve un disque dédicacé dans un vide-grenier de mes parents. Pour moi, c'est une émotion terrible.
Alors on va se quitter, Eve Brenner, avec un extrait justement du disque de Mathieu Moulin, 3 CD, Eve Brenner, La plus grande voix du monde. Et tiens, alors vraiment c'est pas du tout la saison, mais on va quand même chanter Petit Papa Noël pour se quitter.
Que j'ai enregistré pour le Cirque de Pékin.
Voilà.
J'ai chanté ça pour tous les enfants au cirque de Pékin. Oui.
Voilà, avec un mélange de la chanson de Raymond Vincy et Créé par Tino Rossi, et puis de vos...
Et un arrangement à la flûte aussi de Daniel Barda.
Voilà.
Voilà, puis un peu Eve Brenner. Bon, puis je finis sur un contre quelque chose, j'ai oublié lequel d'ailleurs, mais ça plaisait beaucoup. Donc quand vous avez 4000 personnes qui se lèvent et qui applaudissent et qui sont heureux d'avoir entendu Petit Papa Noël, eh bien c'est plaisant aussi.
Eh bien, c'était très plaisant pour nous d'être avec vous ce matin, chère Eve Brenner.
Merci, merci beaucoup.
Et je vous dis à bientôt, j'espère.
Je ne nagerai jamais aussi bien que vous, mais bon.
Un enregistrement de mon invité ce matin, Eve Brenner. Voilà, le plus simple donc pour retrouver ces différents disques que vous avez entendus, de la musique contemporaine à la variété. Eh bien, vous écoutez le disque Eve Brenner, la plus grande voix du monde, 3 CD avec le concours de l'INA. C'est paru chez Marianne Mélodie. Thank you. Les danses de l'opérette Moscou Chériomouchki, une œuvre de Chostakovitch. Vous avez reconnu son style si brillant, notamment dans cet enregistrement merveilleux de l'orchestre de Philadelphie sous la direction de Ricardo Chailly.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et puis avant de nous quitter, je voudrais vous recommander beaucoup un spectacle consacré à un ami très cher, un ami avec lequel j'étais il y a tout juste un an. C'était sur les vedettes de Paris, au pied de la Tour Eiffel. Il était venu, je pense que c'était une de ses dernières émissions. On a passé un très bon moment ensemble avec Michel Legrand, habitué de ce micro. Eh bien, Michel Legrand est à l'honneur en ce moment dans un petit spectacle très vivant, très joyeux, qui lui est consacré à Paris, au Théâtre de Poche.
Quand ça balance, on est deux, le jazz et moi. Je crois même qu'on est trois. La contrebasse, la batterie, le jazz et moi. Ça fait déjà plus que ça. Le vibraphone, les trombones, le jazz et moi. Quand on s'est donné le la, il ne manque plus que les trompettes. Et puis voilà, ça me cogne dans les doigts. Quand ça balance, alors là, je suis chez moi. C'est mon passeport, mon drapeau, ma Bible à moi. Dès que le tempo est là, alors, alors, encore, encore une fois. Quand ça balance, alors là je suis chez moi. C'est mon passeport, mon drapeau, ma Bible à moi. Dès que le tempo est là,
quand ça balance, quand l'orchestre est avec lui, alors là ça fait du bruit. Quand ça balance, le plafond dans l'or éclat, dans un grand tonnerre de bois, ça dégringole du sommet des septième ciel. Si tout le jazz est là, et ça rigole dans son cœur qui prend des ailes, et ça lui cogne dans les doigts.
Quand ça balance, alors là je suis chez moi. C'est mon passeport, mon drapeau, ma Bible à moi. Quand ça balance, alors là je suis chez moi. C'est mon passeport, mon drapeau, ma Bible à moi.
Quand ça balance, Michel Legrand, Michel Forever, que vous pouvez retrouver au théâtre de Poche-Montparnasse. C'est le nom de ce spectacle conçu et mis en scène par Stéphane Druet et Daphné Tesson avec toute une petite troupe qui nous propose une sorte de cabaret. Voilà, une balade dans le monde de Michel Legrand avec son invention, son énergie, ses couleurs musicales. C'est vraiment un spectacle à ne pas rater dans ce petit théâtre qui est devenu l'un des lieux où il se passe quelque chose à Paris depuis que Philippe Tesson a relancé donc ce théâtre de Poche Montparnasse. Philippe Tesson, amoureux à la fois du théâtre et de la musique et qui tient à ce que la musique soit à sa place là-bas. Michel Forever au Poche Montparnasse du mardi au samedi à 21h15 et le dimanche à 17h30.
grave. J'ai rencontré un cave. Je crois qu'il était brave. Mais il était en lambeaux comme un corbeau. Alors je suis montée dans les aigus. C'est tellement exigu que j'ai chuté dans mon scorbeau. Et dans le grave, il y avait toujours mon zouave qui m'attendait suave comme un esclave. Mais c'était un scandinave. Alors je retournais dans les aigus et je me suis perdue dans cette trop grande étendue. Quand un jour dans le médium on me présente un homme si petit, pas plus haut que trois pommes, bien qu'il ne soit pas trop vilain, même assez masculin, de la porte, on l'aurait pris pour une nature morte. Je retombe dans les graves, et là dans cette enclave, il y avait toujours l'épave qui me regardait d'un œil perdu.
Oui, c'était encore un petit clin d'œil à mon invité Eve Brenner, parce que Christiane Legrand, elle s'y entendait bien aussi pour passer du grave à l'aigu et du très aigu au très grave. Elle le fait dans cette chanson de son frère Michel Legrand, Michel Forever, je vous le redis. Donc c'est en ce moment au théâtre de Poche Montparnasse. Et puis, pour terminer l'émission, j'avais envie de vous faire entendre un final d'opérette. Il y a plein de finales formidables d'opérettes. On les écoute pas toujours parce que c'est un petit peu long. Et ceux de Maurice Yvain, pourtant, sont particulièrement brillants. C'est riche, c'est drôle, c'est parodique. On écoute le final de sa première opérette, Tabouche, par toute la troupe de Radio Lyrique. Ce final de Tabouche, dans lequel, eh bien, il est question d'un petit billet retrouvé dans un manteau. Et c'est un petit billet qui est écrit par l'amant de la femme. Alors, tout ça va créer toute une histoire, un enregistrement dirigé par Marcel Cariven en 1970.
C'est inouï comme il fait chaud, c'est bon, c'est bon. Il a rarement fait le canton. Si chaud, si chaud, on est resté dans une chaise. Une chaise d'eau pour être à l'aise. C'est inouï comme il fait chaud, c'est bon, c'est bon. Il a rarement fait le canton. Si chaud, si chaud, on est resté sous la falaise. Et bien à l'aise sur le pont, bien au-dessus.
C'est vrai qu'il fait très chaud, ôte donc ton manteau.
Tiens, mais c'est rigolo, ce n'est pas mon manteau.
C'est bizarre, c'est le manteau qu'avait ma femme tantôt. Oh, dans la poche du manteau, une lettre du petit Martel. Viens, je t'attends à l'hôtel des Trois Écus. Curieuse coïncidence, ma femme était dans cet hôtel.
Qu'est-ce qu'elle faisait-elle?
Elle était avec le petit Martel.
Le petit Martel,
le petit Martel,
le petit Martel,
le petit Martel.
Curieuse coïncidence, ta femme était dans cet hôtel.
Qui faisait-elle?
Elle était avec le petit Martel.
Le petit Martel,
le petit Martel.
Le fils du gros industriel.
Le petit Martel,
le petit Martel.
Le fils du gros industriel. Ta femme à l'hôtel avec Martel, qu'allait-elle faire?
Je ne vois pas pourquoi elle y allait, ma foi.
Pas, j'ose présumer, pour allumer le calorifère.
Vraiment, vu la saison, c'est pas une raison.
Quand à l'heure où le serin tombe, le tourtereau rejoint sa colombe, ils ont pourtant un but naturel.
Lequel? Lequel?
Pour un mari, t'es pas ma parole, Mariole. Mariole, ce n'était pas pour enfiler, j'imagine, des perles fines, que ta femme était venue à l'hôtel avec Martel.
Ce n'était pas pour enfiler, j'imagine, des perles fines, que ta femme était venue à l'hôtel avec Martel.
Plus un seul doute, plus un seul doute, plus un seul doute. À présent, je n'en suis que trop convaincu. convaincu, je suis cocu.
C'est une carte de cocu, plus elle est gare au point d'aigu. Qui lui dit qu'il aurait cru?
Je suis cocu. Je suis cocu.
Nous venons pas sur des débuts devant les coups si imprévus. Confondu et confondu.
Je suis cocu.
Et cocu, cocu, cocu. Et cocu,
c'est un sens de dire, passionne mes refrains. Il semble de le dire, que ça lui fait du bien.
C'est vraiment le martyr de l'insensé Bastien.
Mais à propos d'autres cantons, c'est le canton de ton canton.
Curieuse coïncidence, sa femme était dans cet hôtel.
Excellence,
qui faisait-elle?
Elle était avec le petit Martel.
Le petit Martel,
le petit Martel.
Le fils du gros industriel.
Le petit Martel.
Le petit Martel.
Le fils du gros industriel.
J'imagine des perles fines que sa femme était venue à l'hôtel avec Martel.
C'était pas pour enfiler, j'imagine des perles fines que sa femme était venue à l'hôtel avec Martel.
Mais dis donc, Bastien, voilà que tu as le bon moyen. Toi qui étais pressé de divorcer, je crois, mon ami, que cette fois-ci, entre nous, tu es servi.
Je suis.
Allons, voyons, tâche d'oublier.
Oublier que je suis cocu. Oublier que je suis cocu. Oublier, oublier, oublier. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas oublier. Même en se disant, je suis pas le premier. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas oublier. Que non, quoi que vous fassiez, quand votre femme à un autre se dort, qu'entre ses bras tremblantes elle frissonne, et qu'on suppose qu'elle a dû se déshabiller. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas oublier.
Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas oublier. Même en se disant, je n'ai pas le premier. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas oublier. Non, quoi que vous fassiez.
Quand votre femme a un autre, qu'entre ses bras tremblantes elle frissonne, et qu'on suppose qu'elle a dû se déshabiller.
Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas oublier.
Le final du deuxième acte de Tabouche de Maurice Yvain, petit bijou qu'admirait particulièrement Arthur Honegger lui-même, figurez-vous. C'est Marcel Kerriven qui dirigeait l'orchestre Radio Lyrique avec notamment Aimé Donia, qu'on a bien entendu, et toute la bande de Radio Lyrique autour de lui. On va se retrouver avec notre ami Georgius pour finir l'émission. Annie Comier, notre chargée de production, m'a demandé tout à l'heure la recette d'un cocktail. Et ben, en voilà un très spécial que nous propose en 1938 ce cher Georgius.
Voilà, monsieur. Que prendrez-vous, monsieur?
ça je n'en sais rien mon vieux. Depuis hier j'ai dû le voir la gueule de bois. Alors monsieur prenez un cocktail nouveauté, ça se voit la bouche fermée en se serrant le nez. Et le barman ajoute à souriant en secouant ses gobelets d'argent.
De se dire dans du porto, sans les coquilles, ça c'est nouveau. De se dire dans du porto, ça met en vrille les discotos. Ça vous dilate la rate, vous fait gonfler le chaisier. Ça vous rend mou les genoux, oh qu'est-ce que ça fout. De se dire dans du porto, c'est le cocktail boum pour les dingos. Ce qui fait la différence de mon cocktail avec les autres cocktails, voyez-vous monsieur, c'est que je n'emploie pas de ces ingrédients difficiles à digérer, tels que le gin, le whisky, le bœuf mironton ou l'alcool à brûler. Non monsieur, mon idée que je qualifierais de géniale et même de génitale, comme disait madame de Montespan au baptême de la Cépède, eh bien c'est le coup des œufs durs. C'est à rien, mais il fallait le trouver. Comme le disait si justement Christophe Colomb en se tapant le derrière dans du verre filé pour se décongestionner les cordes vocales. D'ailleurs, jugez-en. C'était un grand combat, sans chic et sans couvent. Je vous jure que ça gantait, c'est tout ce qu'il se donnait. Les oreilles en chou-fleur, on vit un des boxeurs se répandre sur le tapis complètement en croquis. Aussitôt le soigneur cria, j'ai un truc mon pote, tu l'auras. De se dire dans du porto, dans les coquilles, ça c'est nouveau.
C'est nouveau.
De se dire dans du porto, ça met en vrille les biscottos.
Remontons le stock, ton froc, je vais t'essuyer le nez. Vas-y petit gant, tu l'as fait vite avant ça.
De se dire dans du porto, pour un poids-coq, boum, c'est du chouetteau.
La rate vous fait gonfler le fessier, ça vous rend mou les genoux. Oh, qu'est-ce que ça fout de se dire dans du porto, c'est le cocktail, boum, c'est ton nouveau.
Ah oui, le son de l'enregistrement n'est pas extraordinaire, mais c'est quand même une occasion de retrouver ce grand, grand loufoque qui était Georgius de The Dur dans le porto. C'était une chanson de 1938. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier, avec à la technique aujourd'hui Adelino Mello, avec également Emmanuel Rose, réalisation Christine Amado. Et la semaine prochaine, on parlera des minets des années 60 qui se retrouvaient au drugstore des Champs-Élysées. Je serai en compagnie de l'écrivain François Armanet et du musicien Gérard Manset.
À réécouter sur francemusique.fr.